Vertigo, Vertigo, de 16h30 à 18h, sur la première.
Bonjour Lucinda Childs.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en duplex de notre studio de Genève, je le précise, puisqu'effectivement vous êtes très présente au festival Antigel. Ça commence ce soir au bâtiment des Forces Motrices. Et puis il y aura évidemment, je l'ai dit, ces solos dansés par votre nièce. Ce sera à la salle des Eaux Vives du 4 au 7 février. Ce sera, je le disais aussi, l'occasion de redécouvrir Dance, dont on dit que c'est l'une des pièces maîtresses de la post-modern dance, un travail fruit d'une collaboration entre vous, Lucinda Childs, le scénographe Sol Lewitt et le compositeur Philippe Glass. Cette danse post-moderne, eh bien, vous avez contribué à l'inventer, à la créer. C'était à New York où vous avez commencé votre carrière de danseuse et de chorégraphe. Vous avez tout d'abord travaillé avec le Judson Dance Theater, c'était à partir des années 60, en 1962. Vous avez créé votre première compagnie en 1973, et on dit que vous faites partie de celles et ceux qui ont inventé la danse minimaliste. Alors, comme on n'est pas dans une émission de spécialistes de la danse, j'aimerais, Lucinda Childs, que vous m'expliquiez ce qu'est la danse minimaliste.
Ok. C'est-à-dire, pendant la période de Judson, j'ai fait partie d'un groupe qui, vous le trouvez en recherche, dans lequel c'est tout à fait autour du vocabulaire traditionnel de la danse. C'est-à-dire, ça s'agit de les marches, les mouvements naturels que les gens peuvent faire, que ça peut être un vocabulaire pour nous, pour jouer. C'était plutôt influencé par les idées de John Cage et aussi l'esthétique de Merce Cunningham. Et c'était petit à petit que c'est évolué. Une recherche dans laquelle ça m'intéresse, au lieu de trouver un vocabulaire personnel de Lucinda Childs, de trouver un vocabulaire qui s'agit de les mouvements très simples, comme les marches, le changement de direction, le mouvement des bras, les choses qui se passaient à cause d'un mouvement. Et c'était comme si c'est devenu une espèce de danse naturelle, c'était nommé comme ça par quelques critiques. Et puis ensuite, c'était à côté de le mouvement à New York, le minimalisme et le postmoderne.
On dit que vous êtes, je le rappelle, à l'origine de ces mouvements de danse postmoderne. Comment c'était New York à l'époque? Parce qu'on parle aussi d'une ville qui était en pleine effervescence, dans laquelle on inventait finalement ce qu'on a appelé plus tard l'underground, ces mouvements artistiques qui, que ce soit pour le cinéma, la danse, la musique, la peinture, enfin les arts en général, ont ensuite contribué à l'émergence de formes très populaires finalement. Racontez-nous comment était la ville à cette époque-là.
C'était magnifique dans les années 60 d'avoir à côté de Balanchine, Martha Graham, José Le Monde comme ça, et même le ABT, l'American Ballet Theatre, les choses très classiques. Vous avez le mouvement Pop Art de Andy Warhol et Wesselman, etc. Et le mouvement déjà de Frank Stella, c'est-à-dire le mouvement minimaliste de Frank Stella, de Robert Morris, de Sol Lewitt. Et c'était un milieu vraiment très chargé à ce moment-là.
Est-ce que vous avez conscience d'inventer quelque chose de tout à fait nouveau? Est-ce que c'était votre, je dis pas que votre but n'était pas forcément de révolutionner la danse, mais est-ce que vous avez conscience quand même que ce que vous faisiez à l'époque allait totalement changer la façon dont aujourd'hui on regarde les spectacles de danse et même la façon dont on danse aujourd'hui?
C'était différent. Et c'était peut-être pour le monde de la danse un peu difficile.
Oui.
Ils n'ont pas compris pourquoi on est obligé de travailler comme ça. Mais c'est plutôt accepté par le monde des arts visuels. C'est-à-dire, la plupart des gens qui sont venus, ce sont dans les milieux artistiques visuels. Et aussi les peintres, les sculptures, les poètes, les musiciennes. C'était une espèce de milieu un peu spécial pour nous.
Oui. Vous venez de la danse classique à l'origine?
Oui.
Oui.
Et on a continué la formation,
oui.
On n'a pas arrêté. Mais en même temps, c'est pas ça qu'il y avait des gens qui trouvaient un peu bizarre qu'on mange les pommes, on, fait, tu vois, on parle, on fait les choses comme ça. Ils disent que ce n'est pas nécessaire de prendre la classe de ballet pour qu'ils puissent faire n'importe quoi.
Et faire de la danse.
Oui.
Oui. Alors, puisque vous avez évoqué le fait que parfois les gens avaient un peu de mal à comprendre ce qu'ils voyaient en face d'eux, j'aimerais reprendre cette phrase de John Cage qui est assez souvent citée par Philip Glass, le compositeur, qui dit, John Cage, « Rien n'a changé, mais maintenant nos yeux et nos oreilles sont prêts à voir et à entendre. » C'est très vrai, donc, ce qu'il dit là.
Tout à fait, oui.
par rapport à ce que vous avez fait.
Oui, c'est vrai. Et je pense que en même temps, parfois, il y avait les chorégraphes du Judson qui a voulu travailler avec les gens qui n'ont pas du tout information. Moi, pour moi, c'était toujours important que ce soit quelqu'un avec la formation ou classique ou moderne pour faire ce genre de travail.
Comment est née votre collaboration avec ces artistes tels que Philippe Glass, par exemple, Lewitt pour les scénographies? Comment les avez-vous rencontrés? Dans quel milieu vous êtes-vous retrouvés?
Oui, c'était tout à fait à cause du Einstein on the Beach, l'opéra de Phil Glass et Robert Wilson. C'était comme ça que je commence à travailler avec un compositeur. C'était la première fois parce que toute cette période-là avant, je n'avais pas utilisé pas du tout la musique pour mes danses. C'était toujours en silence ou avec un dialogue ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, après Einstein on the Beach, 1976, Phil Glass et moi, nous avons décidé de continuer à travailler ensemble après l'histoire de l'opéra. Et puis, comme ça, on a cherché l'artiste visuel qui peut travailler avec nous, parce que c'était pour maintenant une période dans laquelle je n'étais plus sur les toits, dans les rues, dans les églises, etc. J'avais abandonné un peu l'espace alternatif pour l'espace plus classique comme le théâtre, mais j'aurais voulu un artiste visuel contemporain de travailler avec nous. Et c'était comme ça qu'on a commencé à parler avec Saul Lewitt pour cette histoire de danse.
La musique de Philippe Glass à l'époque, Philippe Glass qui continuait de faire le chauffeur de taxi pour pouvoir subsister, composer de la musique, cette musique si particulière, répétitive, avec de très très subtiles et très fines variations. Comment l'avez-vous reçue et comprise la première fois que vous l'avez entendue?
J'étais dans un loft à New York et c'était une expérience. On peut rester toute la nuit vraiment pour cette musique. Music and Changing Parts, par exemple, c'est incroyable cette pièce. Et puis les musiciennes mettent la musique par terre, par page. C'était vraiment une espèce de rêve, c'était extraordinaire. J'ai jamais pensé à travailler avec la musique de Phil Glass parce que c'était une esthétique. En même temps, un parallèle, il y a beaucoup de parallèles dans la façon qu'il construit les structures pour la musique. Mais de toute façon, c'était à cause de Einstein on the Beach que nous avons commencé à travailler ensemble.
On va entendre d'ici quelques instants quelques extraits de la musique de Philippe Glass pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, et je sais qu'il y en a encore quand même pas mal. Je rappelle donc, Lucinda Charles, que si vous êtes notre invitée, c'est que vous êtes présente invitée au festival Antigel, avec à l'affiche la reprise de Dance, dont on dit que c'est une des pièces maîtresses de la danse postmoderne. Ça commence ce soir et c'est jusqu'au 3 au bâtiment des Forces Motrices, et puis pour 3 salles, à la salle des Eaux Vives du 4 au 7 février. C'est votre nièce Ruth Charles qui interprétera Pastime, Carnation et Museum Piece, 3 solos que vous avez créés il y a de cela 50 ans. On dit d'ailleurs, en cette année où on célèbre l'invention du dadaïsme, que vos pièces en solo sont des pièces à l'humour dada. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, c'est-à-dire que ce sont des pièces à la fois drôles mais aussi à la fois absurdes, quelque chose de totalement nouveau et qui quelque part peut choquer et choqué, en tout cas à l'époque, celles et ceux qui les ont vus pour la première fois?
C'est-à-dire, c'est tout à fait l'idée de Marcel Duchamp, les objets trouvés. Oui. On trouve ça, les éléments qu'on peut trouver facilement dans un petit magasin, ce sont les objets tout à fait accessibles pour les accessoires, pour les ballets. Et c'était peut-être pas exactement choc, mais c'est de faire penser les gens. Parce que nous avons travaillé à cause de John Cage, nous avons travaillé dans un milieu, c'est pas tout à fait personnel. Parfois, les choix sont, par exemple, pour moi, à cause d'une manipulation des objets. Et donc, c'était créatif, mais en même temps, c'est un nouvel domaine à cause de la recherche de John Cage d'être autour de le choix tout à fait personnel.
Vous manipulez des objets, alors je précise pour celles et ceux qui ne vous ont jamais vu sur scène avec l'une de ces pièces. Dans Carnation, par exemple, eh bien, vous avez un égouttoir avec lequel vous jouez, que vous transformez. Vous avez des éponges, vous avez des sortes de bigoudis en mousse avec lesquels vous jouez également. On est à la frontière de la danse avec ce genre de pièces, non?
Oui, C'est une espèce de performance, ouais, dans ce sens-là. Mais pour moi, c'était une recherche de trouver avec les objets petits et les objets grands ce qui peut se passer par rapport au mouvement, avec la manipulation qu'on a fait là-bas.
Lucinda Childs est notre invitée. Vous restez avec nous, Lucinda Childs. On va se tourner du côté de Stromae, qui a une chanson exprès pour vous. Et on revient à vous juste après.
Alors on dort. Alors on dort. Alors on dort. Qui dit étude dit travail. Qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépense. Et qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Et lui dit assis dans la merde. Et qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise de dix mondes, dix famines, dix tiers-monde. Et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Et cela c'est tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben, y en a encore.
Stromae, alors on danse, et ce que vous entendez, eh bien, c'est la musique de Philip Glass. Nous sommes en compagnie de Lucinda Childs et nous parlons avec elle justement de sa collaboration avec ce musicien. Lorsque vous entendez Stromae dire que danser c'est fait pour oublier, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, Lucinda Childs? C'est aussi votre vision de la danse, ou est-ce que vous, vous dansez pour dire justement?
Ouais, moi, d'abord, j'écoute la musique, et je regarde le partition d'une façon assez visuelle, c'est-à-dire de voir exactement comment ça peut être compté. Et puis, pour la structure, pour la chorégraphie, j'aimerais bien faire une espèce de contrepoint avec les accents, la oui. chorégraphie avec les accents de Phil Glass dans la musique. Et comme ça, j'aimerais bien qu'il y ait une tension entre les deux. C'est une espèce de dialogue entre les deux. Ce n'est pas uniquement réflexion ou contradiction, c'est une espèce de dialogue.
Et la danse, c'est fait pour oublier?
Pas tout à fait. C'est un jeu, c'est léger, il n'y a pas d'histoire. Je pense qu'il y avait tous les danseurs sur scène avec son propre projection. Et donc, c'est donc interprété dans une façon différente par chaque danseur par rapport à les émotions. Et je ne veux pas qu'il fasse une copie de les danseurs de les années 69 ou les années 79. Et c'est un peu... c'est difficile de dire exactement quoi c'est.
Vous parliez souvent de votre combat. Je fais référence à deux films signés Patrick Bensard en 2006 et 2011. L'un s'appelait Lucinda Childs et l'autre s'appelait Postscriptum en 2011. Et souvent, vous parliez de votre combat. Et là, ce n'est pas simplement un combat pour faire vivre la danse, c'est aussi un combat personnel. C'est un combat, on va dire, d'expression, de liberté d'expression. Un combat pour une vie plus libre, d'une certaine façon. Pour vous, la danse, Lucinda Childs, c'était aussi le moyen de vous émanciper et d'être plus libre?
C'est un métier que j'adore. C'est un travail de chaque jour. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans un placard ou sur un mur. C'est vraiment quelque chose qui doit revivre chaque jour. Et ça, c'est pour moi important. Mais c'était la question du combat. C'est pour la forme d'art. Pour les danseurs, qu'ils ont les conditions bien pour le métier, pour présenter le métier. Ici, c'est vraiment tout à fait très bien d'être fait partie d'un bon festival comme ça, parce que les conditions ont été bien. Mais c'était parfois, pendant les périodes à New York, on a beaucoup lutté pour trouver tous les moyens bien pour présenter le travail.
De quelle façon vous voyez les influences que vous avez pu avoir chez d'autres danseurs, danseuses ou chorégraphes, Lucinda Childs? Est-ce que vous arrivez à repérer certaines choses chez, Teresa de Kersmaker, par exemple, ou d'autres grandes danseuses célébrées aujourd'hui?
Oui, Anna Teresa Kersmaker est venue à New York déjà un tout petit peu avant de commencer son propre travail. Et puis, ce que j'avais regardé, je trouve que c'est complètement une interprétation différente, mais avec la même esthétique. Et c'est tout à fait bien. Mais d'abord, c'était plutôt, pour moi, rencontrer Yvonne Rainer et de travailler à côté d'elle. Et c'était la première fois que j'ai vu ce genre de performance dans laquelle elle n'avait pas vraiment dansé. Elle a parlé, elle a marché, elle a bougé. Mais je trouvais absolument fascinant. Et c'était la première chose. C'était aussi le travail de Cunningham, naturellement, parce que j'étais étudiant là-bas depuis longtemps.
Est-ce que ça reste de la danse pour vous ou est-ce que c'est définitivement de la performance?
C'est un peu... Je pense que chez Wilson, par exemple...
Bob Wilson?
Oui, c'est Bob Wilson. Tout le monde sont sur scène. Tout le monde sont les performeurs. S'ils chantent, s'ils dansent. S'ils sont comédiennes, nous sommes tous performeurs, donc on partage quelque chose. Je pense qu'avec lui, il n'y a pas les barrières entre les métiers, entre les disciplines. Et ça m'intéresse énormément, ce genre de travailler.
Et vous comprenez aussi les réactions parfois de certains publics qui, lorsqu'ils voient une femme arriver sur scène et marcher sur la scène en bougeant les bras un tout petit peu ou en parlant, on sort du cadre de la danse et on est vers autre chose?
Oui, c'était peut-être au départ comme ça. Oui. Et maintenant, c'est peut-être plutôt accepté. C'est une espèce de recherche dans laquelle on a évolué dans plusieurs façons.
Je parlais de l'influence que vous avez pu avoir sur les danseurs, les danseuses, les chorégraphes. Mais est-ce que vous voyez d'autres endroits, des arts, de la musique par exemple, ou la sculpture, ou la peinture, dans lesquels vous, finalement, avec ce travail que vous avez fait, vous avez également eu une influence? Est-ce que vous avez déjà rencontré des artistes, des peintres, que sais-je, qui vous ont dit « Ah, grâce à vous, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela ?»
Oui, il y a peut-être la génération, parce que nous sommes invités à la fin de l'année 70, avec Einstein on the Beach, et moi avec la compagnie que j'avais à ce moment-là, et aussi comme soloiste. Et il y avait parfois, oui, même Anna Teresa de Kersmaker a dit plus ou moins quelque chose comme ça, parce qu'elle est venue à New York et elle est venue voir le travail qu'on a fait, moi et Trisha Brown.
Et des gens comme, je prends l'exemple récent de David Bowie, disparu, dont on sait qu'il avait un très grand intérêt pour ce qui se passait à New York, dans l'underground de ces années-là, avec Andy Warhol, avec vous. Ce sont des gens que vous pensez avoir influencés?
C'est-à-dire, il m'a influencé ou moi.
Non, vous qui l'auriez influencé.
Oui, il y avait chez Andy Warhol les fêtes, parce que complètement ouvertes, il y avait tout le monde là-bas, et il a fait les films à ce moment-là.
Oui.
Je pense qu'il est venu voir le Judson, il est venu voir le spectacle que nous avons fait, Nine Evenings, oui. Theatre and Engineering. Et malheureusement, les films qu'ils ont fait là ne sont pas disponibles parce qu'il n'a pas voulu que ce soit présenté, parce que c'était complètement pour lui quelque chose de très expérimental. De toute façon, il a travaillé avec nous, il m'a demandé de venir un jour parce qu'il a voulu faire un portrait, donc on a fait un portrait ensemble.
On parle de cette période de la fin des années 60 à New York, notamment à l'époque où Andy Warhol avait créé ce qu'il appelait la Factory. Notre invitée est la chorégraphe et danseuse Lucinda Childs. Vous rappelle sa présence au festival Antigel ce soir aux Forces Motrices à Genève. Ce sera l'occasion de découvrir Dance. Et puis, à partir du 4 et jusqu'au 7 février, l'interprétation de trois de vos solos par votre nièce Ruth Child, Pastime, Carnation et Museum. Puis si l'on regarde les nombreuses collaborations que vous avez à votre actif, Lucinda Childs, on y relève bien sûr des noms de musiciens, ça c'est tout à fait normal, on parle de danse, mais on y voit également les noms du photographe Robert Mapplethorpe, on y voit également celui de l'architecte Frank Gehry. Est-ce que vous pouvez nous raconter la façon dont ces collaborations se sont faites avec un homme comme Frank Gehry, qui est le concepteur du Guggenheim Museum à New York, ce musée en spirale, avec Mapplethorpe, cet homme qui a fait ses photographies sulfureuses d'hommes nus et qui s'est mis en scène également dans ses photographies. Racontez-nous comment vous les avez rencontrés.
J'étais à New York avec Einstein on the Beach et Dance 1979. Et puis les gens de le musée d'art contemporain de Los Angeles ont venu voir le spectacle. Et c'était comme ça que il m'a demandé de faire une espèce de collaboration dans le même esprit. Et j'avais choisi le compositeur John Adams et naturellement parmi les gens disponibles pour cette collaboration, j'avais choisi Frank Gehry, qui n'était pas exactement l'architecte de Le Guggenheim, mais ça va. C'était Frank Lloyd Wright.
Frank Lloyd Wright,
oui. Bon.
Je me suis trompé.
Ça va.
Mais c'est un architecte quand même.
Oui.
Voilà. Et qui a notamment fait un immeuble qui s'appelle l'immeuble qui danse à Prague, je crois. Quelque chose comme ça. Enfin, un immeuble assez étonnant. On a vraiment l'impression de voir un danseur devant soi. qu'est-ce que vous vous racontez lorsque vous, la chorégraphe, vous rencontrez l'architecte?
Well, dans ce cas-là, c'était vraiment quelque chose de spécial comme travail. Et c'est comme si c'est très loin du travail que j'ai fait moi, personnellement, avec mon corps, dans une chambre toute seule, etc. C'est une espèce de contraste énorme. Et c'était comme ça que j'avais un grand plaisir de rencontrer Frank Gehry et de parler de les idées pour un concept, pour une collaboration pour de la danse.
Mais qu'est-ce que vous pouvez... qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre un architecte et une chorégraphe?
C'est peut-être, si on regarde les livres de Mies van der Rohe...
on peut regarder... architecte fameux.
Oui, tout à fait. Et les choses... il y a les autres, Louis Kahn par exemple, juste les images d'avoir voir une fois un musée à Texas, le musée qu'il a construit là-bas. C'est pas grand-chose à New York, mais à Chicago par exemple, il y a les immeubles de Louis Kahn. On voit un esprit tout à fait magnifique, mais c'est simple, c'est pas décoré. C'est quelque chose qui me touche énormément de voir les immeubles construits dans cette façon.
Et pour le photographe Robert Mapplethorpe?
Oui, je l'ai rencontré pendant la période de Einstein on the Beach. Il était un peu parmi nous. Il fait les photos de Phil Glass et de Robert Wilson, très célèbres. Et puis, moi, j'étais en train de faire une pièce avec Robert Wilson. I was sitting on my patio. This guy appeared. I thought I was hallucinating. Et à ce moment-là, Robert Mapplethorpe, il a proposé de faire une séance ensemble. Il a fait les photos et j'étais très contente de travailler avec lui. Et puis on a dit que c'est peut-être un jour, c'est peut-être possible de travailler ensemble pour un spectacle avec la compagnie. Et puis il m'a dit qu'il s'intéresse au, il commence à travailler avec pas uniquement noir et blanc comme métier ou comme matériel, mais il voulait commencer à travailler avec les couleurs dans ses photos. Et c'était dans le spectacle. Alors les couleurs, les réflexions, c'est une espèce de mylar par terre, c'est une espèce de tapis très brillant. Et c'était comme ça qu'on a fait une production qui s'appelle Portraits and Reflection.
Est-ce que c'était surprenant pour vous d'avoir affaire à ces gens-là, ou est-ce que, au contraire, c'était une époque où finalement c'était tout à fait normal d'essayer, d'expérimenter et de s'adresser à des photographes ou des architectes pour pratiquer la danse contemporaine?
Oui, je pense que c'était la période de collaboration et site spécifique et toute cette période-là. Même l'idée, c'est très classique. C'est plutôt le ballet russe. C'est le même concept pour Diaghilev, de faire ensemble un artiste visuel avec un chorégraphe et avec un musicien, etc. Stravinsky, etc. Mais c'était un peu l'esprit de l'époque. Et puis, ça m'intéresse énormément, collaboration, parce qu'on commence tous à zéro. Je demande jamais que ça sera quelque chose que j'aimerais qu'il fasse. J'aimerais bien que ça devienne directement de l'artiste, toutes les idées, etc. Et on trouve une façon de partager les idées, de faire une construction pour une production.
Est-ce que les chorégraphies, est-ce que les spectacles que vous avez produits avec les ans, est-ce qu'ils vieillissent? Est-ce qu'un spectacle, est-ce qu'une chorégraphie, ça vieillit? Ou est-ce qu'au contraire, alors c'est très innovant au moment où ça sort, ensuite ça peut être un petit peu, disons, daté, et tout à coup ça revient et ça garde sa force et sa modernité. Comment est-ce que vous voyez vos chorégraphies aujourd'hui, Lucinda Childs?
Well, dance, c'est un exemple dans une façon intéressante, parce que les danseurs dans le film, ce sont les danseurs des années 80-79. Et c'est une formation complètement différente. Il a porté basket et un mouvement de bras, que c'était une formation importante dans cette période. Et maintenant, les danseurs de maintenant sont. Il fait exactement la même chorégraphie et c'est la même relation de la musique, de l'espace et de l'un à l'autre. Mais c'est interprété dans une façon un peu différente. Et c'est évident. Et pour moi, c'est pas si c'est âgé ou je ne sais pas, un peu différent, parce que c'est on peut avoir les deux. Et c'est, les gens disent c'est bien sûr c'est différent, mais pour moi ça c'est intéressant d'avoir cette autre dimension entre les danseurs de l'année passée et les danseurs de maintenant.
Mais la chorégraphie, les gestes, tout ça, selon vous, ça ne vieillit pas?
À mon avis, non.
Ouais. Là, j'ai ma réponse. Alors du coup, certaines de vos créations, Lucinda Childs, sont des pièces cultes de la danse contemporaine. Là aussi, j'imagine que lorsque vous lisez la presse, lorsqu'on vous en parle et qu'on vous dit voilà, lorsque j'ai vu Carnation, tout de suite ça a été pour moi une pièce culte et ça l'est encore aujourd'hui. J'imagine qu'on ressent quand même quelque chose de particulier. Qu'est-ce que ça suscite en vous? Qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'on vous parle de votre travail et qu'on vous dit que ça fait 40 ans que c'est culte?
Oui, c'est 50 ans même maintenant,
50, ouais.
L'anniversaire même plus de Judson. Ça fait longtemps.
62.
Et bon, ouais. Je suis pas, ça ne m'intéresse pas et je ne suis pas tout à fait capable maintenant, à mon âge, de continuer à faire le solo. Et c'est grâce à Ruth, ma nièce. Elle était installée à Genève depuis 12 ans. Elle a commencé avec le ballet junior. Elle a travaillé avec Foufoy et Gilles Jobin. Elle est complètement professionnelle et elle a plein d'envie de faire ça. C'est pas tout le monde qui est capable et envie de faire ce genre de travail. Mais c'est intéressant et j'ai la chance. Pour moi, l'expérience de revoir mon travail comme ça, et on peut partager, comme on se connaît très bien, toutes les idées à l'intérieur de le concept par le solo qu'on a acheté, par Carnation.
Je rappelle que tout cela, ça sera dansé par votre nièce, on le rappelle, à la salle des Eaux Vives du 4 au 7 février. Vous restez avec nous, Lucinda Childs. On va maintenant s'intéresser aux réseaux sociaux, à ce qui s'y est passé il y a quelques jours.
Vertigo, Facebook,
Et c'est avec Magali Philippe. Bonjour Magali.
Bonjour.
Facebook, comme salle de concert privé, eh bien Jean-Louis Aubert, l'ex-chanteur de Téléphone, a tenté l'expérience jeudi soir en direct depuis son salon et il a généré plus de 2 millions de vues.
Oui, il était un peu plus de 19h jeudi soir quand une petite notification sur mon téléphone venue de Facebook m'a alerté. Il était écrit « Jean-Louis Aubert est en live ». Alors j'ai cliqué et je suis arrivée directement sur sa page, ou plutôt dans son salon, ou sa cuisine, enfin chez lui. À l'écran, le musicien français seul, les cheveux en bataille, écharpe autour du cou, une guitare à la main, une clope au bec, semble découvrir en même temps que nombre de ses spectateurs internautes cette fonction « Mentions » de Facebook qui permet de diffuser de la vidéo en direct.
Vous êtes prêts? Alors normalement, je dois voir les commentaires qui apparaissent. Alors j'ai acheté des lunettes à la pharmacie parce que j'avais perdu mes lunettes. Et puis j'ai acheté des bananes, j'ai acheté du café. Contrairement à ce que certains croient, ce n'est pas le matin, hein, parce que c'est en direct. Je vais chercher une guitare quand même.
Alors il va chercher sa guitare, Jean-Louis Aubert, et c'est un vrai mini-concert gratuit, évidemment, qu'il s'apprête à offrir à ses fans depuis le réseau social, c'est ça?
Ah bah oui, c'est ça, je dirais en fait que c'est même plus que ça, c'est plutôt un moment d'exception. Bon, j'exagère ouais. Peut-être un peu, mais vous allez peut-être vous moquer de l'expression, mais c'est quand même la première fois, alors que cette fonction Mentions existe maintenant depuis quelques mois, on en a déjà parlé ici, c'est la première fois que je vois un artiste s'en servir de manière aussi pertinente et efficace. Ici, pas de chichi, pas vraiment de préparation, mais d'emblée un lien direct entre lui et son public qui se crée.
Faites voir ce que vous m'avez mis. Vous pouvez essayer des chansons, essayer de me mettre en défaut, ça serait pas mal. Même pas peur, comme dirait Renaud. Ça va le son?
Ah bah ça va, enfin.
Ouais, c'est
pas mal. Ça va, ça va. Mais c'est pas ce qu'on est venu chercher ici en fait. On n'est pas venu chercher, en regardant cette vidéo en direct, une qualité sonore ni une qualité visuelle. On comprend bien que c'est avec son téléphone portable que Jean-Louis Aubert filme et on l'accepte.
Je vais commencer par ça, parce que pourquoi? Oui, j'ai rencontré des gens qui sont retombés amoureux l'un de l'autre sur cette chanson. Et ils me l'ont dit, c'était le jour de l'an, c'était chouette. Comment ça se fait?
Ce qui nous vient de loin.
Ça vient de Facebook en l'occurrence. Il y a donc quand même quelques chansons avec Jean-Louis Aubert, mais ce sont les internautes qui lui soumettent les titres. Il commente sous la vidéo, lui lit les commentaires et c'est donc extrêmement interactif.
Alors c'est un bel exercice en effet que Jean-Louis Aubert a accompli sur Facebook jeudi soir. Jouer de la guitare, chanter, lire les commentaires de ses fans, trier les intéressants, les touchants. Et les commentaires, il y en a eu énormément même. Ce matin, j'en avais comptabilisé 70 000.
Chaque note est un câlin. Ouais, mes amours, c'est émouvant en fait. Hein. Merde, je croyais pas qu'on me ferait ça. Bah, le téléphone, il est un peu haut, mais c'est parce que... peut-être je peux le baisser, mais c'est parce que je l'ai mis à charger. En fait, le concert s'arrêtera quand le téléphone sera déchargé. Ou le chanteur.
Eh oui, bah le chanteur, il a bien tenu le coup. C'est 38 minutes en direct qu'a offert Jean-Louis Aubert jeudi à ses fans sur Facebook. Une dizaine de chansons, mais aussi des anecdotes et quelques blagounettes.
Alors, il y en a qui rentrent du boulot, tout ça, qui sont rentrés, ça c'est pas mal. La journée était dure en plus, à Paris, c'était bien bloqué de partout. Bah écoutez, faut pas faire appel à Hubert, faut faire appel à Aubert.
Elle est bonne.
Il se marre tout seul. Enfin, pas vraiment. Hein. Depuis sa page Facebook, le musicien français peut voir combien de personnes sont connectées en direct à ce moment précis. Et...
11 500. C'est... J'ai Bercy avec moi. Mais c'est quand même... Bon, la technologie nous fait faire des conneries. Elle nous prend beaucoup de temps, mais c'est quand même...
Bah ouais, c'est quand même pas mal, non? Ouais. Et il rassemblera jusqu'à 12 000 personnes en même temps. Alors oui, la technologie, cela peut en effet être assez bluffant, assez émouvant, pour autant que celles et ceux qui en font usage restent naturels, peut-être, spontanés, instinctifs. L'exemple de Jean-Louis Aubert, jeudi sur Facebook, est un modèle du genre. Il devient en deux clics lui-même diffuseur depuis chez lui. Mais ce n'est pas un concert léché, professionnel, ce n'est pas un choqué, ce ne sont pas la présence de son agent juste derrière son épaule, ni celle de sa maison de disques, comme s'il était là, en fait, juste pour moi. Mmh. Voilà, c'est aussi ce qu'ont apprécié les plus de 60 000 personnes qui sont venues aimer, liker en direct, ou les plus de 45 000 qui ont partagé cette vidéo. Et comme il a aimé ça, Jean-Louis Aubert, eh bien, il a promis de revenir.
Ailleurs, je vous la ferai au piano une prochaine fois. La prochaine fois, on fera la même chose au piano. Allez.
Voilà, c'est fini.
C'est fini. Plus de 2 millions de personnes qui ont donc vu cette vidéo depuis hier soir.
Jeudi soir,
voilà. Oui. Ce sont les chiffres donnés par Facebook. Qu'est-ce qu'on peut apprendre rapidement, Magali, de cette expérience interactive signée Jean-Louis Aubert?
Tout simplement qu'il faut s'adapter aux plateformes sociales et à leurs codes sans chercher à reproduire à l'identique la manière dont on travaille, que ce soit pour la télévision, la radio ou pour des artistes, pour un vrai concert. C'est une leçon pour tout le monde, pour les marques, les médias qui cherchent sans cesse aujourd'hui à constituer des communautés autour d'une émission, d'une chaîne, d'une rubrique, ce que vous voulez.
Et voilà, Jean-Louis Aubert dans son salon, sur son Facebook, une chronique à réécouter, bien sûr, sur notre page rts.ch/vertigo.
Allez bien, gardez le moral, bientôt le printemps. Salut.
Merci Magali. Lucinda Childs, ce genre d'expérience interactive, qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est incroyable cette histoire. Ça change beaucoup.
Ouais.
Ça change beaucoup, même pour, j'imagine, pour les journalistes, que les gens peuvent reprendre directement les questions de ce qui se passait avec le spectacle. C'est très intéressant. Ça change beaucoup.
Est-ce que vous avez déjà essayé, expérimenté ces nouvelles technologies avec la danse, retransmettre des spectacles en direct, être active sur les réseaux sociaux ou pas du tout?
Non, oui, j'ai travaillé aux États-Unis avec un site que j'avais fait ensemble avec quelques danseurs. Ça s'agit de sept ballets de les années 60 et les années 70, avec une animation d'une partition que j'ai fait, j'ai écrit, à côté de les danseurs. Et c'est un website, complètement ouvert, accessible, qui s'appelle Steady Pulse, Lucinda Childs Steady Pulse, et tout le monde intéressé peut aller voir cette site. Et c'est pour montrer la façon, un peu le processus pour le travail, surtout l'animation d'une partition à côté d'une petite ballet de ce moment-là.
Alors ça, c'est une expérience qui permet de transmettre aussi à celles et ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement d'un corps de ballet, d'une chorégraphe. Vous parlez souvent de signes, de partitions, de choses comme ça. Vous avez légué vos archives au Centre
national de la danse
à Paris.
Oui.
Pourquoi les avoir légués à Paris et pas chez vous aux États-Unis?
Parce qu'ils ont déjà, c'est à cause de Patrick Bensart, et il a fait le film Lucinda et je ne sais pas. Et puis, j'ai demandé pour lui, pour protéger le film de Saul Lewitt, l'ancien film en 35 mm noir et blanc. C'est très précieux dans un sens, ouais. Et on ne peut pas continuer à l'utiliser. C'est-à-dire, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une version digitale.
Oui, c'est la copie numérique du film.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et comme ça, petit à petit, il commence à prendre tous les films, parce que j'aurais voulu que tout soit ensemble. Et c'est maintenant, le Cinémathèque de la danse fait maintenant partie de CND. Mmh. Et donc Mathilde Monnier, la nouvelle directrice, j'ai demandé si c'est possible de mettre toutes mes affaires ensemble. C'était comme ça, c'était peut-être bien pour moi et bien pour eux d'avoir tout l'archive dans le même endroit.
Est-ce que vous avez le sentiment, Lucinda Childs, qu'au fond, vous avez grandi dans le monde de la danse à New York, et puis au fond, vous avez traversé l'Atlantique assez vite pour venir en Europe. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez fait plus carrière en Europe qu'aux États-Unis?
Oui, et je veux bien dire que, par exemple, il y a New York et il y a États-Unis. Parce que c'est juste maintenant qu'Einstein on the Beach a commencé à être présenté côté ouest, à Los Angeles et San Francisco. C'est juste maintenant. Donc, on attend 30 ans pour ça. Donc, c'est-à-dire, c'était déjà 4 fois à Paris, je ne sais pas combien de fois en Europe, et même à Japon, Australie, et maintenant, enfin, Los Angeles et San Francisco. Ça, c'est, ça dit quelque chose.
Qu'est-ce que ça dit alors?
Que la culture, l'attention pour la culture, c'est peut-être un tout petit peu plus ouverte dans les autres endroits que les États-Unis.
Pourtant, la côte ouest, la Californie.
Non, c'est magnifique les choses qu'ils font là-bas. Ouais, il y avait tous les artistes magnifiques, mais cet opéra n'était jamais vraiment vu. C'est juste maintenant.
Il paraît qu'à l'origine, ils voulaient l'appeler Einstein on the Beach on Wall Street. C'est vrai?
Oui, c'était plutôt l'histoire de. C'était commencé par l'histoire on the beach. Et c'est le roman de. Comment ça s'appelle? Neville Shute. C'était un très triste roman. C'était un film que c'est beaucoup frappé tout le monde. Et c'était comme ça. La référence de Einstein et cette histoire de Neville Shute et le film On the Beach, c'était pour ça que c'était devenu comme ça et pas Einstein on the Beach on Wall Street.
Puisque vous parlez de cinéma, de film, Lucinda Childs, vous avez été actrice également, en tout cas de mémoire, dans deux films. Le fameux I was sitting on my patio and etc. C'était en 1977, je ne me souviens plus de la suite. Et La maladie de la mort en 1997. Savez-vous pourquoi on vous a demandé de jouer dans ces films?
Ce n'était pas un film, c'était un spectacle de Marguerite Duras.
Qui était filmé?
Non.
Non?
Non, ce n'était pas filmé.
Ok, alors je me suis trompé.
Non, c'est juste. J'aurais voulu que ce soit filmé, mais on a présenté, je me souviens, plusieurs fois avec Michel Piccoli, même à Lausanne.
Oui, oui.
C'était à le théâtre de Vidi.
À Vidi, oui, absolument. Oui. Mais j'étais sûr que ça avait été filmé, vous voyez.
Non, il y avait les films que j'ai fait avec Susan Sontag, mais pas cela.
Pas cela. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir consacré cette heure, Lucinda Childs. Je rappelle votre présence au Festival Antigel. Donc, à Genève, il y aura la reprise de Dance à partir de ce soir et jusqu'au 3 février. Ça va se passer au bâtiment des Forces Motrices à Genève. Et puis, pour trois soirs, à la Salle des Eaux Vives, du 4 au 7 février, ce sera votre nièce, Ruth Childs, qui va interpréter Pastime, Carnation et Museum Pieces, trois de vos solos minimalistes. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.